Bonjour. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas être présent pour cette conférence. C'est avec plaisir que je vais vous résumer notre propre expérience basée sur nos études de dépistage réalisées dans les pays en développement et que je décrirai leur impact sur les soins médicaux de base dans ces pays. Généralement, lorsque l'on conduit des études, les recherches s'appliquent à la recherche, les essais sont menés à la manière de recherche et lorsqu'ils prennent fin, la plupart des activités cessent. C'est un schéma habituel dans les pays en développement. Nous avons voulu procéder différemment. Nous mettons en place l'étude afin de répondre à une question de recherche et en parallèle, l'étude contribue aux services de santé de base dans ces zones géographiques spécifiques, notamment en améliorant ou même en créant des infrastructures, des formations en continuité des services. L'étude est le point de départ d'une action spécifique menée pour les services de santé. C'est dans cette optique que nous organisons toutes nos études sur le terrain pour le groupe dépistage. Voici une nouvelle réflexion concernant l'impact sur les soins. Une action spécifique augmente la sensibilisation à la fois du grand public et des professionnels. Elle contribue à l'évolution et à la mise en place de réglementations de santé publique et de son impact global sur la formation, particulièrement chez les professionnels de santé, puis sur les ressources financières, en accélérant la mise en place de lignes budgétaires afin de prendre en charge l'intervention et les coûts de base et de contribuer aux ressources humaines et infrastructures. De manière générale, comment ces initiatives aident au déploiement de ces programmes à grande échelle destinés aux populations? J'analyserai tout d'abord dans cette présentation la manière dont les études au CIRC ont contribué à chacun des aspects spécifiques des établissements de santé locaux dans les régions des pays où nous avons implanté nos programmes de recherche. Certaines de ces études sont des essais randomisés avec un suivi à long terme. Elles sont toutes menées sur le sous-continent indien. D'autres sont des études transversales et certaines d'entre elles sont des formations de base. Nous entendons par formation de base un ensemble de personnes et d'infrastructures dans un site précis. Par exemple, dans le cas du Brésil à Porto Alegre, dans le cas du Pérou à Lima et dans le cas de l'Angola à Luanda. Il existe dans ces villes un mécanisme spécifique permettant de former des maîtres formateurs et des professionnels de santé aux différents aspects de la prévention du cancer, plus particulièrement la prévention du cancer du col de l'utérus. C'est une initiative pour améliorer les ressources humaines dans ces régions. Je vais passer en revue chacun des points spécifiques et donner plus de détails dans quelques minutes. Nous avons plusieurs études en cours en Inde. L'essai clinique du cancer buccal dans le district de Trivandrum a été mis en place en 1996 afin d'évaluer l'efficacité de son dépistage en termes de baisse de la mortalité. Cette étude implique 200 000 personnes et son suivi s'effectue sur le long terme. Le second essai randomisé a permis d'évaluer l'impact du dépistage visuel en termes de réduction de la mortalité due au cancer du col de l'utérus. Environ 80 000 femmes ont participé à cette étude. Le troisième essai randomisé, effectué dans le district d'Osnamabad, a évalué l'efficacité relative de l'inspection visuelle à l'acide acétique, de la cytologie conventionnelle et du test du VPH dans la réduction du nombre de cancers du col de l'utérus. 132 000 personnes ont participé à cette étude. Plusieurs études transversales multicentriques ont permis d'évaluer la précision du dépistage du cancer de l'utérus dans la détection des lésions précancéreuses en utilisant différentes méthodes telles que le test VPH, le dépistage visuel et la cytologie. Un autre essai de grande envergure est en cours pour évaluer l'impact de la lutte contre le cancer du sein. Il comprend la sensibilisation au cancer du sein, la promotion de l'examen physique des seins et l'amélioration de l'accès aux services de santé. Il s'agit d'une amélioration des soins de base associée à la sensibilisation au cancer du sein. Environ 120 000 personnes ont participé à cette étude. Dans ce même cadre, des études cliniques isolées ont été réalisées afin d'observer l'efficacité de l'innocuité, l'acceptabilité et l'efficacité de la cryothérapie, de la coagulation à froid et de la résection à lanse diathermique en impliquant un large éventail de professionnels de santé comme des infirmières et des médecins généralistes dans le traitement de ces lésions et dans la mise en place d'un suivi à long terme en cas de complications. Quel a donc été l'impact de ces études en Inde? Nous avons évidemment répondu à la plupart des questions de recherche de ces études. Notre préoccupation ici est de savoir quel impact a été produit sur l'amélioration des soins, sur la pérennisation ou l'amélioration des services de dépistage. Je souhaiterais examiner en détail ce point, mais pour commencer, je voudrais préciser que ces études ont fourni des données très probantes, des preuves scientifiques de l'utilité, de l'efficacité, de l'innocuité et de l'acceptabilité des différentes interventions que nous avons étudiées. Tout est résumé dans cette diapositive. L'essai clinique du cancer buccal réalisé dans l'État du Kerala a désormais pérennisé le développement des services cliniques dédiés à ce type de cancer dans la région. Le gouvernement soutient la formation continue des médecins et infirmières à la pratique du dépistage visuel. L'équipe de dépistage du cancer buccal du Regional Cancer Center de Trivandrum est le point de référence de la formation continue des professionnels de santé et on observe une plus grande sensibilisation dans les services de santé du Kerala. Un système de prise en charge efficace a été mis en place et nous avons constaté une augmentation de la sensibilisation tant chez les professionnels de santé que dans la population. Le stade de présentation des cancers buccaux est en train d'évoluer et se répercute en même temps à certains niveaux de la prévention primaire. Nous évaluerons formellement cet impact prochainement. Nous avons réalisé des études cliniques approfondies sur le cancer du col de l'utérus et avons observé les différentes techniques de dépistage. Quels ont été les résultats ? Dans les états où nous sommes intervenus comme celui du Maharashtra, du Kerala, du Bengale occidental, du Tamil Nadu, du Rajasthan et à Delhi, nous avons constaté un développement des services. En pratique, le gouvernement alloue un budget pour la mise en place de services de colposcopie, pour la formation d'un plus grand nombre de professionnels de santé et pour l'ouverture de plusieurs centres de détection précoce dans la région. Les districts où ont été implantés les programmes de dépistage développent désormais des programmes de plus grande envergure. La disponibilité des services de dépistage a donc d'une certaine manière été pérennisée en Inde, ce qui n'était pas le cas avant. Ces programmes ont également poussé le gouvernement indien à mettre en place une réglementation établissant que le dépistage visuel à l'acide acétique et aux solutés de l'UCOL sera la technique de dépistage primaire qui sera utilisée en Inde dans le cadre du programme de lutte contre le cancer du district ainsi qu'au niveau national jusqu'à ce qu'un test VPH plus abordable soit disponible. La mise en place de programmes a également été favorisée dans des états tels que Gwaraja et au nord-est, Mizoram, Sikkim, Assam et autres, en adoptant les mêmes idéologies et techniques que nous utilisons dans nos études, ce qui a évidemment énormément augmenté le nombre de formateurs maîtres et professionnels de santé dans les services de santé. Ceci n'est que le commencement car rien n'avait été fait durant ces dernières années avant la mise en place des études et l'obtention des premiers résultats. Même si l'Inde possède bien évidemment des établissements de santé corrects, nos études ont certainement contribué à améliorer les infrastructures dans le cadre du dépistage, et particulièrement grâce au perfectionnement des examens cliniques et à la création ainsi qu'à la multiplication des services de colposcopie. Je dirais de manière dogmatique que les précancers du col de l'utérus n'étaient jamais traités. Il n'y avait pas, entre guillemets, de culture du diagnostic et du traitement du cancer utérin avant la réalisation de ces études. Il est donc incertain que les services de colposcopie, de cryothérapie ainsi que les formateurs se sont multipliés de façon massive, tout comme se sont développées la coagulation à froid et la resection à lance diathermique. Une plus grande disponibilité des services se pérennise. On observe une volonté d'améliorer les services de dépistage qui s'étend au niveau national. Nous avons réalisé des études de dépistage au Népal, principalement transversales, portant sur la précision du dépistage des précancers et sur la faisabilité du traitement des lésions précancéreuses par cryothérapie ou resection à lance diathermique. 25 000 personnes ont participé à ces études et lorsque nous nous sommes retirés, tous les centres participant à l'étude sont devenus des centres de dépistage. Les services fonctionnent tous les jours et les femmes peuvent faire l'objet d'un dépistage visuel, se faire diagnostiquer et être prises en charge en cas de précancer. Le centre de Banepa a endossé le rôle formel de centre de formation pour former des infirmières et médecins au Népal, ce qui a permis une augmentation des ressources humaines dans chaque district. À l'heure actuelle, il est possible d'effectuer le dépistage du cancer du col de l'utérus grâce au dépistage visuel dans les hôpitaux des districts. Comme je l'ai dit précédemment, dans le cas de l'Inde, nos études ont permis la mise en place verticale directe d'infrastructures dédiées à la colposcopie, d'équipements pour la resection à lance diathermique, pour la cryothérapie et l'initiation à l'utilisation de pinces à biopsie. Par exemple, aucun des services de santé n'utilisait la pince à biopsie permettant de prélever un échantillon de lésions précancéreuses. Ce sont nos propres études qui l'ont introduite pour la première fois dans les services. J'ajouterai que de manière générale, nos centres de dépistage au Népal, où étaient réalisées les études, ont formé plus de 2000 infirmières au dépistage à travers le pays. L'Afrique est un challenge, particulièrement l'Afrique subsaharienne. À l'exception de l'Afrique du Sud, elle présente la plus grosse carence en services de santé du monde. Dans au moins 30 pays, il n'est pas possible pour une personne à qui on a diagnostiqué un cancer de recevoir un traitement adéquat. Pour la simple raison qu'il n'y a pas assez de services de pathologie, au moins 15 pays n'en possèdent pas. Ils ne possèdent pas non plus de services d'endoscopie et n'ont pas la possibilité de pratiquer une intervention chirurgicale sur les cancers. Et 20 pays n'ont pas accès à une radiothérapie efficace. La majorité des pays, à l'exception de l'Afrique du Sud, est dans l'impossibilité de se fournir en agents chimiothérapeutiques récents. Je dirais que dans beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne, les services de santé et de lutte contre le cancer sont très peu développés. Je ne fais pas une généralisation, mais c'est une réalité. Ces pays n'ont pas bénéficié d'investissements systématiques dans les services de santé de base durant ces dernières années, depuis leur indépendance. Nous avons commencé nos études de dépistage dans des pays tels que le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville, la Guinée-Conakry, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria et la Tanzanie, principalement pour évaluer le dépistage visuel à différents niveaux de prestataires de soins et pour observer l'innocuité, la faisabilité et l'efficacité du traitement des lésions précancéreuses, mais aussi pour améliorer les services de pathologie existants ou pour créer de nouveaux laboratoires de pathologie, ainsi que pour former des techniciens, réorienter et former des pathologistes. Ces études ont également permis d'améliorer les compétences des chirurgiens, des gynécologues et chirurgiens généralistes dans la pratique de la colonisation à froid et de l'hystérectomie radicale pour que les cancers invasifs à des stades très précoces puissent être pris correctement en charge. Je n'ai bien sûr pas la prétention de développer les services de radiothérapie, je n'en ai pas les moyens, mais dans le cadre des études, j'encourage ces pays à mettre en place des programmes nationaux de lutte contre le cancer et d'y consacrer des investissements. Il n'y avait pas non plus dans ces pays où nous avons travaillé un seul service de colposcopie avant la réalisation de nos études. Pas de possibilité de diagnostiquer et de prendre en charge les lésions précancéreuses. Donc dans tous ces services ont été formés des colposcopistes, des gynécologues et des infirmières, comme je l'ai dit précédemment. Une fois nos études achevées, je pense que nous avons progressé de manière satisfaisante dans des pays comme l'Angola, le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville, la Guinée-Conakry, le Mali, le Niger et la Tanzanie. Nous avons échoué en Mauritanie, les résultats au Nigeria étaient mitigés et après notre départ, les sites étudiés ont contribué à offrir le service de dépistage. En Angola, Tanzanie, Guinée-Conakry et Congo-Brazzaville, les études ont été étendues à tout le pays et dans les districts. La Guinée a une réglementation nationale et il existe des programmes actifs dans la moitié des districts des pays développant le dépistage visuel. Nous avons trouvé le moyen de prendre en charge les cas dépistés positifs et de les envoyer à Conakry pour qu'ils soient traités. La Tanzanie, la Guinée et l'Angola ont établi des lignes budgétaires destinées aux services de dépistage du cancer du col de l'utérus. Ainsi, toutes nos études ont permis la pérennisation des services de dépistage du cancer du col de l'utérus dans ces pays et ont offert pour la première fois la possibilité de traiter chirurgicalement les cancers invasifs précoces qui n'ont jamais été pris en charge de manière satisfaisante avant la réalisation de ces études. Par exemple, chacun de ces pays ont été équipés de kits pour la pratique de l'hystérectomie radicale contenant tous les instruments chirurgicaux nécessaires et les chirurgiens se sont déplacés à Lyon ou en Inde pour y être formés. Qu'est-ce que ces formations ont apporté ? Elles ont permis l'introduction dans les services de santé des XRS de masse qui ont ensuite correctement été examinés dans les services d'histopathologie et de se concentrer sur la mise en place de services de chirurgie du cancer en introduisant l'hystérectomie radicale. Ces formations ont évidemment eu un impact dans la prise en charge des masses au sein, car ces compétences particulières encouragent les gynécologues et chirurgiens à pratiquer la chirurgie du cancer du sein. Les impacts spécifiques produits ont été la mise en place de services de dépistage dans le système de santé des pays où nous avons travaillé, le développement des services particulièrement en Angola, en Guinée-Conakry, au Mali, au Congo-Brazzaville et en Tanzanie, le financement régulier en Angola, en Guinée-Conakry et en Tanzanie. L'aspect le plus important aujourd'hui est le fonctionnement des centres de formation qui encadrent des maîtres formateurs, des professionnels de santé, des infirmières, des médecins généralistes, des gynécologues, des chirurgiens, leur permettant de pratiquer le dépistage, la colposcopie, l'histopathologie, la résection à l'ancien thermique et la cryothérapie. Ces centres sont des écoles officielles. Il existe une école de formation à Luanda en Angola. Pour les pays où l'on parle portugais en Afrique, une en Guinée-Conakry pour l'Afrique francophone et une en Tanzanie pour l'Afrique anglophone. Ces centres sont entièrement financés par les gouvernements locaux et nous les aidons en leur apportant une assistance technique et en facilitant en quelque sorte l'échange de maîtres formateurs de différents pays dans les régions grâce à l'obtention de bourses. On a beaucoup entendu parler de la contribution de l'UICC car elle a financé les différentes bourses secrètes permettant d'envoyer les formateurs dans les centres de formation et également d'organiser des cours. Comme je l'expliquais précédemment, le traitement et la prise en charge de ces cancers par la chirurgie ont été améliorés dans ces pays. Venons-en à la Chine. La Chine est un immense pays avec beaucoup de potentiel où le développement des systèmes de santé est très variable. D'excellents services de santé ont disparu à cause des réglementations de santé publique de ce pays. Pour la Chine rurale, c'est une autre histoire. Beaucoup d'études de dépistage ont été réalisées par plusieurs organismes, principalement coordonnés par le docteur Yulin Qiao et ses collègues de l'Académie chinoise des sciences médicales. Nous n'avons pas mené d'études de dépistage en Chine, mais nous apportons notre aide par la formation des médecins à la pratique de la colposcopie et de la résection à l'antiathermique. Nous les aidons en formant les maîtres formateurs en collaboration avec l'Académie chinoise des sciences médicales qui ont été sélectionnés dans les universités de chaque province de Chine et qui ont suivi nos 4 cours organisés dans différentes régions comme Xi'an, Pékin, Shaanxi et autres. Ces maîtres formateurs mettent ensuite en place, à leur retour, des services de dépistage dans leur propre département. Nous avons formé des internes, des gynécologues et des professionnels de santé, ce qui a entraîné un effet boule de neige dans la mise en place des traitements des lésions précancéreuses détectées dans les différentes régions de Chine. Le gouvernement chinois a désormais officiellement introduit une réglementation pour la création de services de dépistage usuels dans chaque province de Chine, qui est coordonnée par le docteur Yulin Qiao et ses collègues. Dans le passé, les précancers détectés ne pouvaient pas être pris en charge car il n'y avait aucune expertise pour les traiter. Grâce au développement et à l'investissement dans la formation des maîtres formateurs, les services de traitement et de colposcopie se sont multipliés en Chine. Passons aux établissements de formation au dépistage du cancer du col de l'utérus du CIRC. Nous avons passé un accord avec nos collaborateurs dans différents pays pour nous concentrer sur les activités de la formation. En Inde, ces centres de formation formellement appelés centres de prévention du cancer du col de l'utérus ou centres de formation au dépistage sont implantés à Trivandrum au sud de l'Inde, à Mumbai à l'ouest, à Kolkata à l'est, à Barshi au centre et à Ambilikai au sud de l'Inde. Ces centres sont très actifs, ils sont financés par une institution locale et par le gouvernement local. Les formateurs sont mandatés par les institutions locales qui organisent régulièrement des cours et reçoivent des stagiaires provenant de différents pays et régions. Nous avons ensuite un accord avec le KK Women's and Children's Hospital pour dispenser des formations aux personnes provenant de différents pays d'Asie et d'Afrique, particulièrement avec le Dr Sui Zhong qui a collaboré à cette initiative. Les centres reçoivent des stagiaires venant de différentes régions pour une période allant de 2 semaines à 6 mois et les forment à une grande variété d'activités, y compris la chirurgie gynécologique du cancer. Parallèlement, les centres ont un accord avec l'université de Chiang Mai dans le cadre d'un projet et la formation porte essentiellement sur la résection à l'antiathermie, la colposcopie et la chirurgie gynécologique du cancer. Les stagiaires peuvent aller dans ces centres et suivre cette formation. En Afrique, nos centres de dépistage, comme je l'ai dit précédemment, se situent en Guinée-Conakry, Angola et Tanzanie. En Guinée-Conakry, le gouvernement a entièrement financé la construction des bâtiments spécifiques dédiés à la formation et les infrastructures de l'école ont été en partie financées par nos soins et en partie par une association catholique italienne. Les coûts liés au fonctionnement sont pris en charge par le gouvernement et le tout est coordonné par le dynamique professeur Namori Keita. À Luanda, en Angola, après la guerre civile, le gouvernement a investi une partie de ses ressources financières dans la santé et a financé le centre de formation qui est coordonné par le docteur Miraldina à l'hôpital Lucrecia Payne de Luanda. En Tanzanie, le docteur Twali Bengoma est le directeur du centre de lutte contre le cancer situé dans l'Ocean Road Cancer Institute, seul centre en Afrique subsaharienne à l'exception de l'Afrique du Sud qui s'est révélé très dynamique dans l'application des études à travers le pays, au nord, au sud, au centre, à l'est et à l'ouest. Des centres de dépistage y ont été implantés et des services de chirurgie et de radiothérapie s'y sont développés. La Tanzanie dispose actuellement d'infrastructures dédiées à la radiothérapie à Dar es Salaam, disposant de 3 appareils de télécobalt et d'une unité de curiethérapie. D'autres infrastructures similaires se développent en Tanzanie du Sud et au nord à Mwanza. Il existe des services de dépistage au Kilimandjaro, à Arusha, et Moshi, à Paramio, Essangia, Mwanza et d'autres districts ont été équipés pour la colposcopie, la résection à l'anse diathermique et la cryothérapie. Nous recommandons et diffusons maintenant la coagulation à froid, qui est une approche de traitement plus faisable. Au Brésil, à Porto Alegre et au Pérou, grâce à la collaboration du docteur Paulo Naoud, un centre de formation pour les personnes parlant portugais a été créé et est très actif dans la formation des ressources humaines au Brésil, particulièrement au sud. Il reçoit des stagiaires de différentes régions du Brésil et collabore avec nos collègues d'Angola pour les personnes parlant le portugais en Afrique. Ils organisent régulièrement des cours, des conférences, ils pérennisent les activités de dépistage au Brésil. À Lima, au Pérou, grâce à la collaboration du docteur Carlos Santos, des centres de formation très actifs ont été créés et reçoivent des personnes venant de différentes régions, particulièrement d'Amérique centrale. À titre d'exemple, concernant nos centres de formation, je souhaiterais parler en détail de celui du Pérou, que vous pouvez voir sur cette diapositive. Au début, le pays apportait une aide financière, puis il a ensuite apporté une assistance technique sans oublier la contribution de l'INCTR en Belgique. La majorité des fonds proviennent de l'Institut national du cancer péruvien. Voici des photos des médecins du Honduras, du Venezuela, de la Bolivie et d'ailleurs, qui ont été formés à la colposcopie, à la résection à lanse diathermique et à la colonisation à froid et autres techniques liées à la prise en charge du cancer. Il s'agit d'un de nos cours les plus récents dispensés par nos collègues du Centre de formation du Pérou qui a eu lieu à Masaya, au Nicaragua. 30 infirmières et médecins ont été formés à l'inspection visuelle, à la cryothérapie et à la résection à lanse diathermique. Voici différents supports de formation en espagnol qui ont été développés par le Centre de formation du Pérou. Voici une photo de l'école de formation sur la prévention du col de l'utérus en Guinée-Conakry qui a été entièrement financée par le gouvernement guinéen. Il dispose de salles de conférence, de télémédecine et de services de dépistage ainsi que de salles de classe. Il dispose également de véhicules et de nombreux équipements. Nous avons entre autres fourni un colposcope vidéo, mais une partie des infrastructures a été, comme je l'ai dit précédemment, financée par une ONG italienne. À l'heure actuelle, le centre reçoit des aides d'USAID et d'autres organismes pour améliorer encore plus les activités du centre et accroître la couverture du dépistage dans toute la Guinée. Je vais maintenant commenter brièvement les cours de dépistage du cancer du col de l'utérus du CIRC. Ces cours étaient essentiellement à l'origine destinés à former nos prestataires de soins dans le cadre de différents projets que nous avions mis en place au début des années 2000 et à la fin des années 90. Plus tard, ces cours sont devenus très intéressants et ont beaucoup attiré l'attention. Nous avons commencé par répondre à des demandes en donnant des cours dans plusieurs pays. Comme vous pouvez le voir, nous avons dispensé 45 cours dans 15 pays. Ces cours formaient essentiellement les maîtres formateurs. Nous avons formé environ 653 formateurs en Asie, en Afrique subsaharienne et 210 infirmières et professionnels de santé dans ces pays. Comme vous avez pu le constater, la formation est importante pour la pratique des différentes activités telles que les techniques de dépistage, la colposcopie, la réalisation de biopsies, l'histopathologie et le traitement des lésions SIN. Je souhaiterais exprimer ma gratitude et mes sincères remerciements à mes différents collègues en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Norvège, en Suède, en Inde, en Afrique subsaharienne et en Amérique latine qui ont dispensé ces cours pour former les prestataires de soins. Tout ceci n'aurait pu être possible sans une solide collaboration entre ces différentes institutions et sans la bonne volonté générée par nos études. Je n'ai parlé jusqu'ici que des études de dépistage du CIRC, non pas parce qu'il n'existe pas d'études de dépistage menées par d'autres organismes ayant un impact, mais simplement parce que nous avons une meilleure connaissance de nos projets. Cela ne veut pas dire que nous devons ignorer la contribution des autres. L'Alliance pour la prévention du cancer du col de l'utérus, qui est un consortium mondial, a été créée par la fondation Bill et Melinda Gates et regroupe différents partenaires comme l'organisation PATH, JPEGO, Engender Health et notre organisation sœur de l'OMS, PAHO. Nous avons mené différentes études dans différents endroits du monde, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et ailleurs. Je voudrais citer un exemple, l'étude menée par l'organisation JPEGO en collaboration avec le Royal Thai College of Obstetrics and Gynecology et avec le ministère de la Santé thaïlandais. Au début des années 2000, ils ont démontré l'innocuité, l'acceptabilité et l'efficacité de la réglementation concernant la méthode observée puis traitée, utilisant l'IVA et la cryothérapie. Depuis, en Thaïlande, les provinces peuvent choisir et appliquer soit la méthode de dépistage du frottis de pape, soit celle de l'IVA et ensuite traiter. Actuellement en Thaïlande, plus de 15 provinces ont adopté la réglementation concernant l'IVA et la méthode observée puis traitée comme politique gouvernementale liée à une politique d'assurance maladie nationale afin que les patients soient remboursés. On dénombre 414 professionnels de santé, 36 superviseurs et 50 formateurs, ce qui explique qu'à ce jour, sur 1 million de femmes dépistées, 80% à 90% de celles dont le test s'est révélé positif ont été prises en charge. Il sera intéressant d'effectuer une évaluation formelle de ce programme concernant sa contribution dans la réduction de l'incidence du cancer du col de l'utérus et de sa mortalité. Nos collègues de la CCP, tout comme ceux Danger the Health et d'autres, ont mené d'importantes études en Afrique, mais également nos collègues de l'OMS à Genève, particulièrement ceux travaillant pour le département de la santé reproductive, comme Nathalie Broutet et ses collègues, qui ont mis en place plusieurs services de dépistage et des projets de démonstration au Ghana, à Madagascar, en Zambie, au Zimbabwe, au Kenya, en Ouganda, au Nigeria et au Malawi. Nous avons apporté une assistance technique à ces programmes en mettant à disposition des systèmes d'information et c'est encourageant de voir que l'OMS à Genève a directement contribué à la mise en place d'infrastructures dédiées aux services de dépistage dans ces pays. Ces études expérimentales ont pris fin et nous espérons qu'elles vont s'étendre à une plus grande échelle pour proposer plus d'activités de dépistage dans ces pays. Nous constatons déjà des signes encourageants au Ghana, en Zambie, en Ouganda, au Kenya et ailleurs, où les services de dépistage se sont étendus à d'autres districts. Je vous ai donc expliqué en quoi nos études avaient pu contribuer à l'amélioration des services de santé pour le dépistage du cancer buccal et utérin. Encore une fois, je n'ai pas consacré beaucoup de temps au cancer du sein car nous commençons tout juste à en mesurer l'impact. Des essais randomisés sont en cours au sud de l'Inde et nous en prévoyons d'autres, mais pour le moment nous apportons une assistance technique à certains pays du Moyen-Orient dans la mise en place de programmes de détection précoce du cancer du sein. Le champ d'action permettant de créer un impact est considérable, pas seulement pour nous, mais également pour nos collaborateurs et collègues des organisations nationales et internationales dans la lutte contre le cancer du sein, car cela est en train de devenir un problème majeur dans beaucoup de pays. Je suis très reconnaissant envers les organisateurs d'avoir proposé ce sujet, qui nous a permis d'y réfléchir et qui nous a également donné l'opportunité de décrire ce que vous avez pu voir dans cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Ma collègue Catherine Sauvaget est présente et disponible si vous avez besoin de renseignements. Je voudrais également exprimer ma sincère gratitude à la Fondation Bill et Melinda Gates qui a investi plus de 100 millions de dollars pour le développement des services de dépistage et en particulier du cancer du col de l'utérus dans les pays à faible et moyen revenu. C'est le seul et le plus important investissement que nous ayons reçu d'une organisation dans le monde pour pérenniser ses activités. Aucune organisation ou gouvernement national occidental n'a montré d'intérêt pour financer de telles activités, donc je remercie encore une fois la Fondation Bill et Melinda Gates. D'autres organismes qui ont apporté un financement tels que le Cancer Research UK, l'AICR, le Gunnar Nielsen Cancer Research Trust Fund du Royaume-Uni, l'Union internationale contre le cancer, ainsi que nos collègues de l'OMS Afro ont été d'une aide précieuse dans la réalisation de nos études et dans la pérennisation de notre assistance technique. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements à tous les gouvernements nationaux et institutions nationales des pays où nous avons travaillé, ainsi qu'à nos collègues que j'aurais aimé citer pour leur énorme contribution à ces activités. La majorité des coûts liés aux diagnostics et traitements ont été financés par les services de santé locaux, mobilisant une large part des ressources locales pour ces études. C'est donc un bel exemple de collaboration et de coopération multilatérale entre un grand nombre d'organismes gouvernementaux nationaux et internationaux. Merci pour votre aimable attention.